Nicolas Boutier, bonjour.
Bonjour Guylaine.
Je vous retrouve, Nicolas Boutier, pour notre rendez-vous mensuel.
Tout
dorénavant,
oui.
C'est parti. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine protestant régional, le CEP. Je le rappelle parce que toujours, nos auditeurs ne sont pas toujours, toujours fidèles, au point de vous connaître par cœur.
Bientôt, bientôt, ça va arriver.
D'accord. Alors, Nicolas Boutier, rédacteur chef du magazine protestant régional, le CEP, Cévennes, Languedoc, Roussillon. Alors, Nicolas Boutier, faire le premier éditorial de l'année est une rude tâche. Ses vœux 2017 ont-ils fait exception à la règle ?
Alors j'ai une chance, c'est que comme je suis tout nouveau rédacteur en chef, ce sont mes premiers vœux. Donc j'ai encore plein de choses à souhaiter. Je pense que j'en aurai encore pendant de longues années, mais ça n'a pas été si difficile que ça.
Mmh. D'autant qu'il y a quand même des projets dans cet éditorial. Il y a l'ouverture d'un site internet.
L'année 2017 va être très riche en événements. En effet, au cours du mois de janvier, alors on annonçait le 17 janvier, ça risque d'être un peu reculé pour l'ouverture du site internet du journal.
Les délais sont toujours reportés, c'est pour ça qu'il y a des délais.
C'est ça, c'est très long à mettre en place. Et puis il y a l'année Luther qui se met en place aussi, donc il va y avoir beaucoup de choses à annoncer dans le journal, au niveau des paroisses et de ce qui va se passer dans la région. Donc c'est vrai que c'est une année pleine de projets.
Plein de projets, et le premier numéro de ce magazine protestant est consacré au pape. François. François, un pape normal. Alors ce titre, Nicolas Boutier, vous fait flirter avec la rhétorique politicienne dont on va aussi beaucoup parler en 2017.
Oui. Alors c'est vrai que c'est la question qu'on s'est posée quand on a constitué ce dossier avec les autres rédacteurs. On voulait quand même parler du pape pour deux raisons. La première, c'est qu'il a ouvert l'année Luther à Lund cette année. Et puis ça reste quand même un personnage public et religieux important dans le monde. Donc on ne peut pas vraiment passer à côté, même nous protestants. Et là, la question qu'on s'est posée, c'est que finalement le pape nous fait peur en tant que pape. Enfin, fait peur, on nous intéresse moins. Mais l'homme pose des questions et a un discours qui peut, à nous aussi protestants, poser des questions.
Alors, en effet, les questions, vous ne vous êtes pas privé de les poser même dans ce numéro que j'ai trouvé ce dossier passionnant, vraiment une synthèse intéressante de tout ce qu'on a pu entendre sur le pape d'un point de vue protestant. Vous avez rassemblé là les différents points de vue. Et le premier article de Christophe Jacon est, à mon sens, une analyse très pertinente du comportement du pape François. Des gestes, oui. Des paroles, oui. Nous dit-il en parlant du pape François, mais où sont les écrits ? Il est d'ailleurs rejoint dans cette analyse par Michel Barlot, qui aussi va dans le sens de Christophe Jacon.
Mais en fait, c'est ce qui nous a dérangé dans la constitution du dossier, c'est qu'il y a de très belles paroles, il y a quelques très beaux gestes, mais dans les faits, dans les actes plutôt, ben rien n'est fait, l'Église reste un peu immuable. Alors c'est là où je pense que ça pourrait être un dossier en tension, une vraie tension entre ce pape et cet homme. Le pape un peu coincé dans la curie, dans l'organisation de l'Église, dans sa position, parce qu'il reste quand même le chef de l'Église avec une position très forte. Et puis en même temps un homme qui a des envies, des désirs de bouger, d'avancer, d'un vrai engagement chrétien, mais qui est un peu coincé dans sa fonction.
Alors, il est coincé dans sa fonction. Il fait des efforts sur le synode par rapport au synode de la famille. Notamment, vous montrez bien que, au niveau même de sa méthode de travail, il a cassé des règles. Il fait intervenir les chrétiens dans cette réflexion, les catholiques plus exactement, dans cette réflexion-là, en tenant compte des positions différentes.
C'est vrai qu'il il pose des questions, il interroge. Les catholiques sont parfois un peu... Certains sont déroutés. Comment pouvons-nous donner notre avis ? Et d'autres sont intéressés, en particulier les femmes. J'avais entendu une émission de télévision où les femmes se disaient « Enfin, notre position va peut-être être reconnue dans l'Église. » Mais donc, voilà, tout le monde a été interrogé, mais les positions à la fin sont toujours là. Aucune femme n'est diacre, alors qu'elles sont souvent les plus engagées au sein des Églises.
L'article de la pasteur Luca Maria Negro, pasteur baptiste, aussi montre que le comportement du pape François remet à l'honneur un œcuménisme qui était en panne ces dernières années.
Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est passé en Italie. Le pape est allé à la rencontre des églises vaudoises et apparemment c'est un événement très important parce que c'est la première fois qu'un pape vient à la rencontre des communautés protestantes italiennes traditionnelles et, j'allais dire, pré-réformatrices, puisque les Vaudois sont plus anciens que nous, protestants réformés, même s'ils se sont rattachés à notre mouvement. Et donc ça a été apparemment très, très important pour les Italiens. Et il y a aussi tout un partage, en particulier avec les migrants, puisque c'est la fédération, je crois, protestante italienne qui avait essayé de mettre en place des ponts entre les lieux d'arrivée des migrants et puis les pays, différents pays européens. Et c'est sur ce chemin-là que le pape est allé quand il est revenu avec ces fameuses familles, ces deux familles de migrants qu'il a ramenées de, je ne sais plus quelle,
Lampedusa. Lampedusa, oui, tout à fait. Et enfin, il y a Antoine Nuis qui le qualifie de prophète. Antoine Nuis, pasteur de l'Église protestante unie, qui qualifie notre pape François de prophète.
Là, je serais plus réservé. Je serais plus réservé. Je reconnais qu'il y a des gestes très forts. J'ai vu une retransmission. Je crois que c'était une cérémonie de Pâques ou quelque chose comme ça. Et il doit aller donner la confession à d'autres prêtres ou évêques. Et au lieu d'aller donner la confession, il est allé lui-même se confesser auprès d'un prêtre. Et je trouvais le geste extrêmement fort. Un pape qui finalement s'humilie. C'est lui, normalement, il a la parole sûre. Personne ne peut le contredire.
Il descend de pierre, quand même.
C'est ça. Il est infaillible, c'est quand même, voilà, c'est son rôle. Et il va se confesser devant un homme. Et je me dis, voilà, donc il y a des gestes très forts de là, le qualifier de prophète.
C'est un peu trop fort.
Je trouve que c'est un peu fort.
Bon, on va lui laisser le temps à ce pape François, alors.
Laissons-lui du temps, peut-être qu'un jour on l'appellera prophète, mais pas encore. Pour moi, donc.
Vous écoutez Le CEP sur le réseau FM+, 91 FM à Montpellier, 103 points à Nîmes. Une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Alors Nicolas Boutier, un reportage complètement différent, suit ou presque à quelques pages près, ce pape François. C'est un reportage sur Lézan, un village du Piémont des Cévennes et la ferme Clarisse. Alors que se passe-t-il dans cette ferme où règne le calme et la tranquillité, nous dites-vous ?
Alors c'est vrai que c'est un lieu assez exceptionnel et pourtant dur quand vous allez comprendre. C'est en plein milieu du village, un endroit idyllique, une très jolie cour de ferme arborée avec des fleurs, mais c'est surtout un lieu d'accueil. Et la principale activité, c'est l'accueil des femmes battues, qu'elles soient seules ou avec des enfants. Donc le but est de les accueillir, de les loger, de les resocialiser, pour qu'elles puissent reprendre pied, retrouver une vie normale et puis repartir faire leur vie. Ça, c'est le principal projet. Mais ils accueillent aussi des gens qui sont perdus dans leur vie, perdus parce qu'ils n'ont plus de famille, ils sont seuls, ils n'ont plus de repères, et donc on les aide à se reconstruire, donc leur donner un petit logement, leur apprendre à remanger presque, à recuisiner, à revivre dans la société.
Il reste combien de temps dans cette ferme ?
Alors ça dépend, ça va de quelques semaines à plusieurs mois, voire parfois des années. Et tout ça au milieu du village. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a tous les jeudis, je crois midi, un repas où tout le monde se mélange. Les gens du village, les paroissiens protestants et catholiques, et les gens qui sont logés dans ce lieu. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre au cœur du village et un lieu de paix, vraiment.
Ça existe depuis longtemps ?
Ça fait, je crois, 18 ans maintenant que c'est installé là. C'est quelque chose qui tout doucement prend de l'ampleur. Et là, ils ont des projets, en fait. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils se laissent vraiment porter par la grâce de Dieu, c'est vraiment ça, en disant, on nous propose plein de choses, on peut le faire, c'est super, on peut pas, ben c'est pas grave. Donc là, ils sont en train de réanimer complètement le centre du village. Enfin, c'est vraiment un endroit exceptionnel.
Qui vous a séduit.
Ah, énormément, oui.
Alors, au-delà du dossier, au-delà du reportage, qui évidemment change chaque numéro, j'aimerais aussi rappeler que dans chaque numéro du CEP sont indiquées les lectures bibliques du mois, qui se réfèrent au calendrier des lectures bibliques, elles-mêmes organisées par la Fédération protestante de France, pour que la Bible, toute la Bible, soit lue en 6 ans. Donc chaque mois dans le CEP, vous avez les lectures, la lecture mensuelle, à côté de laquelle s'installe un rédacteur qui choisit un des textes de ce calendrier. Est-ce que, donc en janvier, nous avons les lectures de Matthieu et Jérémie. Est-ce que ce sont systématiquement des pasteurs qui interviennent là pour ces lectures bibliques ?
C'est une bonne question. Souvent, oui, ce sont des pasteurs quand même qui interviennent. Parfois des théologiens qui ne sont pas tous pasteurs. Parfois des laïcs très engagés qui ont une connaissance précise des textes bibliques. Mais c'est vrai que ce sont souvent quand même des pasteurs qui interviennent.
Alors, outre cette rubrique Bible, nous avons aussi la rubrique Jeunesse qui propose aux parents animateurs des jeux de mots, des jeux aussi de table pour animer une soirée avec des enfants ou un mercredi avec des enfants.
Exactement.
Là encore, c'est géré par un organisme particulier ou une personne ?
C'est nous-mêmes. Chaque rédacteur à son tour prépare la page jeunesse. Donc, on essaie de... En fait, on part d'un texte biblique, souvent en lien avec le dossier, mais pas toujours. Et de ce texte biblique, il y a une petite, toute petite méditation, une petite prière et des jeux qui vont avec, des dessins pour illustrer à destination des moins de 12 ans, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est alterné avec une bande dessinée. Donc une fois, c'est une bande dessinée pour les plus de 12 ans. Une fois, c'est jeu pour les moins de 12 ans.
Donc ça, c'est la page qu'on arrache du CEP quand on a fini de le lire et qu'on garde précieusement.
On espère vraiment que les grands-parents utilisent cette page pour jouer avec leurs petits-enfants quand ils reçoivent le CEP.
Écoutez, nous sommes vraiment à l'affût de toute intervention de nos auditrices ou auditeurs qui pourraient nous témoigner de cet usage.
Ah, ça serait super, oui.
Vous écoutez le CEP sur le réseau FM Plus 91 FM à Montpellier, 103 points à Nîmes. Une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Alors, dans vos nouvelles régionales, il est question ce mois-ci, Nicolas Boutier, de l'ensemble de l'Aude, Carcassonne et Narbonne. Alors, à quoi ressemble cette région protestante ?
Alors, c'était assez rigolo comme rencontre parce que, comme j'ai titré le dossier, cette page, c'est entre terre et mer, puisqu'on est vraiment reculé dans les terres avec Carcassonne et puis Narbonne, on est quasiment au bord de la Méditerranée. Donc, une paroisse à deux visages, des lieux qui ne sont pas protestants traditionnellement, et pourtant deux paroisses très vivantes. Alors, deux visages différents, c'est pas vraiment la même fréquentation, c'est pas les mêmes activités, mais elles fonctionnent ensemble, dans un ensemble. Et vraiment, je pense que ça doit être stimulant d'avoir ces deux visages, ces deux positions qui se rencontrent, qui se croisent et puis qui se stimulent.
Est-ce que les cultes ont lieu tous les dimanches à Carcassonne et à Narbonne ?
Tous les dimanches à Carcassonne et à Narbonne. Donc le pasteur en alternance se fait une fois l'un, une fois l'autre. Et après, il a énormément de prédicateurs. Je dois avouer qu'il a beaucoup de chance.
Ah oui. Une belle équipe autour de lui.
Belle équipe.
C'est Charles Clagbas, n'est-ce pas ?
C'est Charles Clagbas, le pasteur. Et donc, ils ont ces prédicateurs qui, tous les dimanches, assurent un culte dans chacune des paroisses. Mmh. Je crois que deux fois par an ou trois fois par an, il y a des cultes communs.
Donc là, c'était le coup de projecteur sur une partie de cette région que vous couvrez, Nicolas Boutier, avec le CEP.
Voilà, là, pour ce trimestre, nous allons couvrir le consistoire Pyrénées-Orientales-Aude. Mmh. Et normalement, dans le numéro du mois de février, je pars à la rencontre de la paroisse de Perpignan.
Perpignan. Est-ce que vous voudriez finir par un coup de cœur du rédac-chef, Nicolas Boutier, dans votre numéro du mois de janvier ? Après tout, à vous l'honneur de pointer un article que je n'aurais peut-être pas soulevé.
Il y en a un qui m'a un peu amusé, c'est l'article Patrimoine, Culture, Art, qui est... ce n'est pas un article fondamental du journal, je vous l'accorde, même si...
Édouard André, un Nîmois à Paris ?
Exactement. Au début, j'avais choisi Paul Landowski, qui est un sculpteur connu, qui a entre autres sculpté le monument des réformateurs, mais aussi le Christ de Rio, qui domine Rio. Donc, c'était assez rigolo de les mettre en comparaison. Mais mes collègues m'ont dit, quel est le rapport avec ta région ? Alors, je dis, en effet, Paul Landowski n'en a pas, puisqu'il est français, mais pas d'ici. Et donc, j'ai dit, j'ai trouvé un personnage protestant un peu célèbre. Et puis, je me suis rappelé, à la suite d'une visite au musée Jacques-Marandré, que Édouard André était originaire de Nîmes. Sa famille, son père a été député dans la région. Je pense que lui-même a eu une carrière politique dans la région. Et je me suis dit que c'était intéressant de montrer ce personnage nîmois qui, finalement, a construit ce somptueux hôtel particulier, qui a légué cette superbe collection, à la France, mais du moins à nos yeux, et en sachant qu'il était originaire d'ici. Donc c'était le petit clin d'œil.
Voilà, de l'histoire.
Le clin d'œil de l'histoire.
De l'histoire. Écoutez, merci Nicolas Boutier pour cette émission sur le CEP. Donc bien sûr, tous les renseignements pour obtenir un numéro du CEP, celui-ci et d'autres, et même ceux d'avant, ceux à paraître... Il faut s'abonner, bien sûr. Sont sur le site radiofmplus.org avec toutes vos coordonnées. À nous revoir, Nicolas.
À très bientôt, Guylaine.
Merci.